Déambulation.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui, je suis en déplacement d'Andy pour visiter le salon chinois, une particularité notable de Di, et j'ai la chance de bénéficier d'une visite particulière avec Madame Adhémar. Madame Adhémar, bonjour.
Bonjour, je suis contente de vous recevoir. Vous n'êtes pas le seul. Nombreux sont les gens qui viennent voir le salon chinois depuis presque 10 ans, 700 à peu près les journées du patrimoine. Le reste du temps, l'office de tourisme se charge de faire visiter cet endroit. Mais ça me fait plaisir de vous le montrer.
Commençons par les petits détails pratiques. Oui. Cette visite est possible quand même tout au long de l'année.
De mars à septembre, fin septembre.
Quel jour est-il ouvert ?
Samedi, 14h30. Oui, ça, il paraît que ça s'est passé. Donc, oui, ça, c'est vrai, il faut que ça sache.
Eh bien, justement, la radio va permettre de pallier à ce manque d'informations. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'accorder votre temps pour cette petite visite dans ce lieu qui, à brûle-pourpoint, d'entrée de jeu, impressionne. Comment peut-on définir cet endroit alors ?
Définir cet endroit, c'est à la fois facile et difficile. Vous allez me poser la même question que tous les autres. Pourquoi un salon chinois a dit ? Eh bien, je vous dirais, c'est tout à fait normal. À l'époque, il faut se replacer au XVIIIe siècle. Évidemment, il faut repartir un peu en arrière. Et à cette époque-là, tout ce qui était chinois était très à la mode. Ça avait été mis à la mode surtout par les pères jésuites qui étaient partis un siècle avant en Chine. Ils sont revenus avec des descriptions de la Chine. Ils trouvaient que c'était un pays de cocagne quand ils n'ont pas eu la tête coupée. Maintenant... Évidemment, ça surprend quand on connaît un peu la ville de Die à l'heure actuelle, qui a été quand même très abîmée au plan de l'architecture. Mais, et même, on se dit que Die, à cette époque-là, était une ville sans doute pauvre, et elle l'était, certes. Alors, quoi ? Comment se fait-il qu'il y ait eu des gens qui avaient de l'argent pour se faire ça ? Parce qu'un décor pareil, on ne vous le fera pas gratuitement. Donc, c'était des notables, certes, des hommes de loi. C'est eux qui faisaient la loi. Un homme de loi fait la loi. Donc, eux, ils faisaient la loi à Die, et il y avait énormément de procès à cette époque-là. Les paysans se faisaient des procès les uns contre les autres. Donc, ils avaient besoin des avocats. Et ils croyaient en ils croyaient que les avocats étaient des gens qui comprenaient les choses. Donc, c'est dans cet esprit-là que cet homme de loi s'est fait construire cet endroit dont on a trouvé dans les actes de décès de la famille même la destination, parce que ces petits salons comme ça, il y en avait partout en Europe, mais certains c'était des boudoirs, par exemple à Schönbrunn près de Vienne, ou bien des petits salons comme je pense à Oranienbaum près de Saint-Pétersbourg, etc. Ici, on a vu que la destination de cet endroit, c'était d'être un cabinet d'études. On tape « cabinet d'études » sur Internet et on voit qu'au XVIIIe siècle, un cabinet d'études avait une fonction. C'était un endroit qui était comme une bibliothèque et un bureau, et le maître de maison, donc c'était pour un homme et pas pour une femme, comme je pensais. Bon, je trouvais que c'était tout à fait normal qu'une femme puisse s'installer là, pas du tout. Donc c'était un endroit qui était un lieu où travaillait le maître de maison, et celui-ci recevait ses visiteurs. Mais la fonction de cet endroit était tout à fait définie. Il fallait impressionner. Alors voilà, c'était pour impressionner les visiteurs et pour qu'ils paient sans doute plus facilement. Bien sûr, on était impressionné quand on entrait dans cet endroit. On était impressionné parce que surtout, on ne savait pas ce que c'était que la Chine. Là, bien sûr, c'est une vision de la Chine. Et
j'allais vous le demander, est-ce que c'est vraiment chinois ou est-ce que c'est une vision panoccidentale de la peinture chinoise ?
C'est vous qui avez raison.
Voilà.
Et par un occidental, pas n'importe lequel, par un peintre, parce qu'on ne connaissait rien sur ce salon. Et au bout de 8 ans quand même, on connaît presque tout. Sur le maître des lieux, c'était pas trop difficile. Quant au peintre, ça a été beaucoup plus compliqué. Mais là, devant vous, vous avez un cartouche avec un naufrage. Et il y a un nom qui est écrit, Louis Fargeon Pingsit, 1767. Nous avions cette base. Mais avec ça, il faut se débrouiller. Des Fargeons, il y en a plus d'un dans la Drôme. Et nous avons retrouvé à la fois sa naissance à Cray en 1716, son mariage à Die en 1750, et je suis très contente parce que nous venons de retrouver il y a quelques semaines, un mois, la date de sa mort. Mais c'est un peintre entre 1767, date de ce salon, qui n'est pas le seul parce qu'il a fait plusieurs décors peints dans la région et plusieurs autres peintures qui sont des peintures religieuses uniquement. Donc pendant 20 voire 30 ans, il a peint ici, mais le filou, il habitait à Pont-Saint-Esprit. Et c'est là que nous l'avons retrouvé. Et que faisait-il là? Il est parti là en 1760. Pour rejoindre sa fille qui habitait à Pont-Saint-Esprit. Il aurait bien rejoint son fils, mais son fils était devenu prêtre et il avait été, comme beaucoup de jésuites à l'époque, envoyé à Cayenne, pas avec les fers aux pieds, mais pour évangéliser la région. Donc, puisqu'il ne pouvait pas voir son fils, il s'est rabattu sur sa fille qu'il allait voir et auprès de laquelle il est allé habiter à Pont-Saint-Esprit tout en travaillant ici. Ce qui est quand même paradoxal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne travaillait pas seul. Il ne travaillait pas seul et les restaurateurs ont bien vu qu'il ne travaillait pas seul. Parce que dès le début de la restauration, ils m'ont dit « c'est étrange et pas étrange, c'est classique au XVIIIe, il y a plusieurs mains ». Moi j'étais incapable, je suis encore tout à fait incapable de voir ses mains un petit peu maintenant, toutes ses mains. Mais il avait sans doute un atelier et il faisait travailler les uns et les autres, se gardant le meilleur pour lui-même.
Alors, si je peux me permettre de vous interrompre.
Je vous en prie.
Vous avez parlé tout à l'heure de cartouches et de naufrages. Qu'est-ce à dire?
Là, vous voyez, ça s'appelle des cartouches, ça, tous ces
petits... Des espèces d'encarts.
Oui, voilà, vous dites ça, c'est mieux. Tous ces encarts qui sont au-dessus de ces Chinois, les uns représentent une vision de la Chine, les autres représentent une vision de l'Orient qu'on avait à l'époque, et les autres représentent des paysages qui pourraient tout à fait être ceux d'ici, et d'autres représentent des naufrages. Ça doit avoir un sens, et c'est pour ça qu'il serait bon qu'on fasse étudier la chose par des historiens d'art du XVIIIe intéressés par une peinture qui n'est pas celle des élites. Ça, c'est difficile. On aime mieux parler de Watteau que d'un peintre un peu inconnu.
Justement, ce monsieur Fargeon n'est pas connu plus que
pas
ça.
Pas connu plus que ça, pas connu du tout. Donc, il n'est pas vendable, difficilement. Mais il faut, parce que c'est quand même intéressant. Bien sûr, ça n'est pas l'art des élites, c'est sûr. On n'est pas devant un Watteau, un Boucher, enfin, des tableaux du XVIIIe classique. Mais on touche là ce qu'on appelle l'histoire des mentalités, qui a été travaillé par quelqu'un qui habite à Aix, un grand professeur qui s'appelle Michel Vauvel, qui est spécialiste de l'histoire des mentalités. Et c'est intéressant de voir comment travaillait, comment vivait cette couche un peu moyenne de la société. C'est plus intéressant que de s'occuper uniquement des élites qu'on connaît par cœur. Voilà.
Sur certains encarts, non seulement vous me dites effectivement on voit des espèces de paysages plus ou moins chinoisants, oui. Mais on voit aussi un certain nombre de Chinois. Y a-t-il un sens que vous pourriez nous révéler aujourd'hui même?
Tout à fait, tout à fait. Pourquoi? Pas parce que moi, je m'occupe de la Chine et je m'intéresse à la Chine et je fais un peu de chinois, donc je sais certaines choses, très peu. Parce que pour le chinois, il faut prendre des siècles entiers pour travailler. Peut-être que dans un siècle ou deux, je saurai plus de choses, mais maintenant, pas encore. Donc, en ce qui concerne les Chinois, je me suis dit que ce serait intéressant de faire venir les restaurateurs du musée du palais impérial de Pékin, du Gugong. Et j'ai demandé à notre ambassade si elle ne pouvait pas faire venir quelques restaurateurs. On m'a dit tout de suite qu'on n'avait pas d'argent, il y a 8 ans déjà. Et à ce moment-là, j'ai écrit à l'ambassade de Chine à Paris, tout simplement, en lui expliquant le projet et en lui demandant s'ils étaient prêts à faire venir quelques restaurateurs. Ils voulaient en faire venir 10, vous savez comme ils sont, toujours puissants, nombreux. Non, j'ai dit 3, ce sera suffisant parce qu'il faut après les manager, leur donner quelques bols de riz à manger quand même, et je n'avais pas beaucoup de finances. Ils ont dit, nous payons le voyage transatlantique. Donc le voyage était payé jusqu'à Paris. À Paris, nous en sommes occupés jusqu'ici, Et ils sont venus, ils ont été très très intéressés. Parce que à Pékin ou n'importe où en Chine, quand il y a des restaurations, tout est repeint. Or ici, le parti des restaurateurs a été de ne pas repeindre. Rien n'est repeint. Bien sûr, il y a quelques lacunes, parce qu'il y a eu des désordres, des remontées par capillarité de l'humidité. Mais rien n'est repeint. Vous avez quand même toute la suggestion qui est donnée. Donc c'est le parti pris des restaurateurs de plus en plus en France.
Oui, mais d'un autre côté, je vais être un peu redondant, mais ceci dit, c'est quand même des peintures d'occidentaux qui ont une certaine vision de la Chine. Ce n'est pas des peintures chinois sur la Chine.
Non.
Qu'auraient pu faire des restaurateurs chinois sur des peintures d'occidentaux sur leur propre pays, datant du 18e en plus.
Vous avez raison, mais moi je me disais, il faut qu'ils voient comment on restaure en France, il faut qu'ils voient qu'on ne doit pas repeindre, parce que si vous avez été à Pékin, vous voyez le musée, par exemple, du palais impérial, c'est-à-dire de la cité interdite, c'est repeint, c'est plus neuf que neuf, et surtout pour les Jeux Olympiques, ils ont passé des couches et des couches, donc c'est pas beau. Évidemment, c'est rutilant, c'est riche, c'est... mais non, ce n'est pas authentique. On ne sent pas que le temps est passé. On croirait que ça date du 21e siècle. Les Italiens ne procèdent pas comme ça, les Français non plus. Malheureusement, les Russes procèdent comme les Chinois et les Grecs aussi.
Et alors, pour en revenir à ma question sur ces encarts avec des Chinois, que représenteraient-ils ?
Ben, vous voyez, ils marchent deux par deux. Vous avez deux musiciens, deux femmes, une femme de cour, une servante, et vous avez encore deux autres personnages là, deux paysans. Et là, vous avez des personnages qui sont un peu à part. Ces deux-là vont ensemble, et je l'ai retrouvé pourquoi ils allaient ensemble, mais ils vont ensemble et ils ne ressemblent pas aux autres. Voilà, ce sont des paysans en grande partie, des musiciens, parce que c'est un thème traditionnel dans l'iconographie française du XVIIIe siècle en ce qui concerne les chinoiseries.
Deux fumeurs de pipe, je vois là.
Deux. Vous avez raison de dire deux fumeurs de pipe. Raison et pas raison, parce que là, vous avez un fumeur de pipe qui est notre emblème. Nous l'avons appelé parce que tel il est, et parce que tel les Chinois l'ont dit, mais on pouvait le s'en douter, c'est un mandarin lettré. Mandarin, ça veut dire donc qui dirige, vous voyez bien qu'il dirige, il n'est pas comme les autres, par exemple, celui-ci, c'est un brave monsieur avec son fils ou son petit-fils, un brave paysan, très sympathique. Mais là, vous avez autre chose. D'abord, il n'est pas habillé comme un Chinois, et ça n'est pas un Chinois. Parce qu'en Chine, vous aviez l'ethnie des Han, qui était la grande ethnie. Mais à côté, vous avez l'ethnie des Man, des Manchus, qui est l'ethnie en fait dirigeante et qui a dirigé la Chine jusqu'au dernier empereur Puyi, qui a eu la sagesse de vouloir être jardinier plutôt qu'empereur. Donc, vous voyez, là, c'est un Manchu. C'est un Manchu parce qu'il a l'habit d'Asie centrale, enfin, de ses conquérants d'Asie centrale. Il a même des babouches. C'est pas un Chinois. Et sur son chapeau, il a toute une espèce de petite verroterie, enfin ce sont peut-être des pierres précieuses, qui montrent qu'il appartient à un rang très élevé dans la société chinoise. Il fume la pipe, ça c'est normal, classique. Il tient à la main, dans sa main droite, un rouleau que vous pouvez acheter sur les petits marchés de Pékin, encore de même que la pipe, qui est rétractable. Elle doit faire 1 mètre, 1,50 mètre, ou bien 50 cm. Et ce petit rouleau, vous le dépliez et vous voyez les sentences de Confucius. C'est un rouleau fait avec des lattes de bambou. Et à côté, vous l'avez dit, à côté, vous me dites deux Chinois. Je dis oui et non. Parce que vous pensez que c'est comme certaines sommités de la DRAC qui étaient venues au début du projet disaient « voilà un jeune homme chinois ». Eh bien non, je vous décevrai, mais c'est une femme. Et remarquez, j'ai beau jeu de le dire maintenant, avant on ne voyait que la partie supérieure de ce personnage, donc c'est vrai, il fait juvénile et tout, mais... deux éléments me permettent de dire que c'est une femme. D'abord, elle fume la pipe. Ben, et quoi ? Toutes les femmes chinoises fument la pipe. Plus elles sont vieilles, plus il y en a, mais même les jeunes. Et là, Vous avez l'esprit du 18e, vous avez un fourneau de pipe qui représente un homme. Un homme qui serait le diable, sans doute. Vous voyez ? Ça, c'est l'esprit. Et tout est comme ça. Il y a des doubles sens partout. Je vous en donnerai quelques clés, peut-être. Et comment j'ai pu déterminer que c'était une femme ? Eh bien, c'est en cherchant quelles étaient les influences. Parce que vous comprenez, je me suis dit, ce peintre, il n'a pas peint ex nihilo comme ça. Il était peut-être très intelligent, mais quand même, il a fait comme le meilleur des étudiants, coupé, collé.
Bon. Et il avait été en Chine, je suppose.
Jamais.
Ah donc, c'est d'après l'image...
Voilà. Vous savez, les images avaient quand même un sens au XVIIIe siècle. Et j'ai retrouvé que l'influence majeure vient d'un peintre qui est un peintre lyonnais, c'est pas loin, dont il a regardé les images. Et ce peintre lyonnais est très très sympathique. Il s'appelle Jean Pillement, c'est ce qu'on appelle un ornemaniste. Est-ce que vous ne croyez pas que tout ce qui est important, ce sont les ornements ici ?
J'allais vous en parler, il y a des enluminures, il y a des grues, il y a des oiseaux, il y a même...
Oui. Alors, la grue, je vous en parlerai.
Surprenant, il y a même un ange, alors c'est très peu chinois ça.
Il y a plusieurs anges. Ah ben oui, mais ça n'a rien de chinois, le décor n'a rien de chinois. Et vous voyez, je pense que ce Fargeon, il est allé copier un peu partout. Pour les naufrages, il a copié Joseph Vernet. Pour les cadres, comme ça, il a copié l'ornemaniste Jean Pillement. Pour les angelots, les Putti, il a copié Parato, il aurait pu, mais il a copié, en fait, l'apothicairie de Carpentras. Si vous allez dans cet endroit, qui est un endroit merveilleux à Carpentras, où personne ne va jamais, dans la bibliothèque Humbertine, eh bien, vous voyez un plafond avec des anges très semblables. Et ils sont sympathiques parce qu'ils représentent les saisons. Vous en avez un, c'est assez naïf, si vous voulez, mais il y en a un avec son brasero, c'est l'hiver. L'autre, c'est le printemps, et c'est tourné en fonction des points cardinaux. Et là, vous avez l'été,
avec les épis de blé, oui, bien sûr.
Et là, vous avez, pour la ville de Die, où on aime bien la vigne, c'est l'automne.
Avec les grappes de raisin.
Ben oui, il a fait les vendanges, vous voyez. Ça, ça vient très certainement de Carpentras. Donc, il a pioché, je vous dis, comme le meilleur des étudiants, et comme tous les étudiants, un peu partout. Et il a pris ce qui lui convenait. C'est assez sympathique.
Alors, vers le bas, donc, il y a des encarts... qui sont assez répétitifs, hein, avec ces espèces de...
Ah oui, c'est exprès. Vous voyez, ce soubassement est fait avec des carreaux de Delft. Delft, c'est aux Pays-Bas. Et les carreaux de Delft font référence à la Compagnie des Indes, qui était très importante à l'époque. Et donc, c'est un rappel de la Compagnie des Indes. Alors là, regardez. Là, vous allez me dire bêtement, à droite, il y a un rocher. Eh bien, moi, je vous dis non. Ah ben non, vous me dites non, c'est pas un rocher.
Je vous crois sur parole, ce n'est pas un rocher.
Mais qu'est-ce que c'est ?
Mais qu'est-ce que c'est alors ?
Qu'est-ce alors ? C'est tout simplement un profil. Vous voyez pas que c'est une personne ? Un gros monsieur, un peu. Et il a, semble-t-il, la barrette des chanoines sur la tête.
Vous en êtes sûr ? Vous le confirmez ?
C'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est un historien d'art qui est venu un jour et il m'a dit ça comme ça. Moi, je l'ai pris pour content parce que je trouve ça génial. Mais ce sont les anamorphoses, c'était classique, hein, dans toute la peinture depuis la Renaissance. Archimboldo, il y en a plein. Et là, regardez, ça fait un profil et c'est un profil, semble-t-il, de chanoine. Pourquoi c'est un profil de chanoine et pourquoi c'est intéressant ? Vous regardez les papiers de la famille, toujours, du commanditaire, et parce qu'il a encore des descendants qui n'ont pas trié les papiers, donc tout ça est bien, on peut regarder. Et qu'est-ce qu'on voit qu'il avait parmi ses nombreux enfants ? Deux chanoines, dont un a été assez célèbre, hein, a dit. Pourquoi ne pas extrapoler un peu et dire que le voilà, le chanoine ? De même, dans ce rocher, il y a une femme.
Alors, où est-elle ? Où est-elle bien cachée d'ailleurs ?
Bien cachée, c'est vrai, vous avez raison, mais seuls les enfants voient ça. Les journées du patrimoine, on demande, et les enfants trouvent, vous voyez, avec cette naïveté qu'il est...
Mais je ne la vois pas,
or,
effectivement.
Vous ne voulez pas la voir ? Regardez, tout droit, là, on voit deux petits yeux, comme un vieux chat, là. Voilà. On voit deux yeux, non ?
Peut-être.
Deux yeux et une robe, et c'est... un portrait de jeune fille qui est là.
Alors, donc ça, c'est ce que vous appelez des anamorphoses, c'est-à-dire on cache des personnages dans une autre, dans quelque chose de plus vaste, dans une peinture.
Une image en cache une autre. Et là, c'est très. Et alors, il y a des gens, quand je leur ai expliqué ça l'autre jour, voilà qu'il y a des gens qui ont trouvé encore un autre portrait. On n'arrête pas, et c'est vrai qu'il y en a un là.
Ça veut dire que vous auriez potentiellement d'autres surprises qui nous attendent dans le futur.
Absolument. Et il faut que des visiteurs viennent et ouvrent les yeux et nous aident à comprendre ça. Vous voyez, ce cartouche-là est très intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est une vision de l'Orient que l'on avait en France au XVIIIe siècle. C'est-à-dire, comment voyait-on l'Orient ? Je parle de l'Orient et pas forcément de la Chine, puisque c'était tout cet espace.
Terra incognita. Voilà. Ubisunt tigres un leones.
Exactement. Et vous voyez, c'est aussi bien l'Égypte, c'est aussi bien tout ce qu'on ne connaît pas. Eh bien, vous avez là représenté un palmier, vous avez une pyramide, vous avez un volcan. Alors, les esprits forts, parce qu'il y en a qui viennent ici, ont même décrété qu'il y avait quand même une idée d'esprit des Lumières, pour ne pas dire que ce décor était parfois un petit peu un décor franc-maçonnique.
Peut-être me risquerais-je à parler d'un jésuite qui a été fort célèbre à visiter la Chine, puisqu'il a laissé un monument, à savoir le premier Yi Qing traduit, Richard Wilhelm, le premier qui a traduit un Yi Qing cohérent. Voilà.
Oui.
Là où je voulais en venir, c'est que ne serait-ce point ici un espèce de jardin zen en premier plan dans cette.
Oui, vous avez tout à fait raison, c'est tout à fait ça, hein, tout à fait ça. Mais les spécialistes de la maçonnerie à cette époque disent que c'est aussi peut-être l'image d'un disque à un maître et un disciple, il voit des disciples partout, il y en a un là, il y en a un là, il y en a là, peut-être, moi j'en sais rien, je n'ose pas m'aventurer sur ce terrain-là, mais je trouve que c'est sûr qu'il y a plusieurs sens. Là, vous voyez, il n'y a pas plusieurs sens, c'est un musicien traditionnel chinois qui joue du pipa, c'était un luth à quatre cordes, je crois, qui tout à fait traditionnel. Eh bien, j'ai retrouvé le même personnage, pas dans l'encadrement, c'est Piment, mais le même personnage, vous le retrouvez sur des faïences de notre région, de la région lyonnaise et de la région de Moulins. Donc voilà. Vous voyez, on retrouve tous ces modèles, à la fois peut-être chez les jésuites, sûrement chez les faïenciers. Comment c'est venu de l'un à l'autre, tout ça, c'est le problème des influences est un peu complexe, toujours. Regardez ce bel oiseau. C'est vous qui en parliez.
Une grue qui mange un ver.
Oui.
Celui-là, il est particulier aussi, on dirait un
la
hibou,
chouette.
Un
chien. Ah oui, c'est la sagesse.
La sagesse, le hibou.
C'est pour, comme ça, le maître de maison, parce que il faut bien savoir que c'est un endroit qui est construit entre cour et jardin, comme tous les cabinets de curiosité de l'époque, et chinois et particulièrement. Donc, le maître de maison arrive là, il voit, je suis un sage, mais il voit aussi cet animal. Et cet animal a une double signification. C'est une grue, pour les Lyonnais, ça leur dit quelque chose, c'est la grue des Brotteaux. Les Brotteaux, c'était un quartier qui était à l'époque très marécageux. Ben, sans doute, il a été constructible malgré tout, comme beaucoup d'autres endroits de ce genre. Mais c'était un endroit marécageux. Et la grue symbolise toujours, en Occident comme dans d'autres pays, la longévité. En Chine, cet animal, on ne l'appelle pas la grue, on l'appelle le phénix. C'est le même. Et ce phénix, qui renaît de ses cendres, est en effet symbole de longévité. Donc le maître de maison, il voit tout ça, à la fois la sagesse, à la fois la longévité, et sachez qu'il est mort très âgé pour l'époque. Donc vous voyez, ça protège.
Bien sûr.
Allez, on va s'en servir.
Madame Adhémar, donc vous m'avez dit que c'était un salon de curiosité ou un salon de travail.
Oui.
Je vois en face de nous une grosse bibliothèque avec un certain nombre d'ouvrages, peut-être d'époque. Oui. C'était censé être des ouvrages de référence pour qu'ils puissent travailler. Était-il dans ce salon l'époque ?
Quand on a décidé de se lancer dans ce projet, on a vu en effet qu'il y avait une bibliothèque là, que qui existait, mais où, bien sûr, il n'y avait plus rien d'intéressant. Parce que vous comprenez bien que les ouvrages intéressants ont disparu au fil des ans. C'était inévitable. On peut en emporter plus facilement qu'enlever une fresque. Donc tout ça est... Non, il y a très peu... On a fait la recension de tous ces ouvrages. Très peu sont intéressants. Tous sont dépareillés. Mais il y a quand même ce qui donne à comprendre que nous sommes chez un juriste. Il y a des livres de loi, il y a des livres aussi, il y a des antiphonaires, c'est-à-dire il y a des livres religieux, puisque nous sommes dans la propriété de l'évêché, puisque cet endroit appartient à l'évêché.
C'est la cure.
Ça s'appelle la cure de Die. Mais le propriétaire en titre, c'est l'évêque. Et c'est l'évêque qui a accepté cette restauration.
Deuxième petite question, cette teinture bleuâtre, quand même, qui est assez prégnante et qui nous impose cette vision un peu en mi-teinte, etc. Quels sont les pigments utilisés ?
C'est ce qu'on appelle le bleu de Prusse, tout simplement, qui était très, très en vogue à l'époque. Mais c'est une peinture qui ne tient pas beaucoup, qui est très légère et... Et c'est pour ça que la restauration a été quand même très délicate. Il y a eu plusieurs restaurations. Il y en a une à la fin du 19e, d'ailleurs c'est écrit, Placide Biagio, 1863. Il semblerait qu'il y en ait une au début du 20e siècle. Et puis il y en a une il y a 8 ans, lorsque nous avons engagé ce processus, lorsque nous sommes jetés dans cet océan.
De travaux. Vous êtes satisfaite des travaux qui ont été réalisés donc il y a 8 ans ?
Je n'ai pas à être satisfaite parce que ce salon, dès le début, a été mis sous la protection des monuments historiques. Donc il est inscrit, il n'est pas classé. Classé, c'est extrêmement lourd comme procédure, tandis que inscrit, c'est plus léger. Il est inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Donc heureusement, il nous échappe et la responsabilité échappe à tout le monde. C'est la responsabilité de l'État, de la DRAC peut-être. Mais pas d'autres personnes. Donc on n'a pas à être content et mécontent, n'empêche qu'on ne peut être que content parce qu'il est resté un esprit de l'époque, ça n'a pas été... Parfois, évidemment, j'aurais préféré que ça soit plus restauré. Alors, en avoir pour son argent, vous savez, on peut dire ça, parce que j'avais quand même eu beaucoup de mal à collecter 35 000 euros pour la restauration, 15 000 euros pour tous les travaux annexes.
La mise en valeur.
Voilà, et alors j'aurais aimé quand même que ce soit, vous voyez, plus neuf que neuf, comme les Chinois. J'avais ce travers-là, mais heureusement, j'étais la seule à l'avoir, donc je n'étais pas... Non, c'est très très bien fait, je suis très contente, nous avons été tous très contents de cette restauration, et la restauratrice en chef en question a fait d'autres restaurations dans la région depuis, et nous trouvons que c'est très bien. Vous allez me dire, comment s'y est-elle pris ? Évidemment, vos auditeurs ne voient rien, d'accord. Mais vous aussi, vous croyez tout voir. Vous ne voyez rien, parce que vous n'avez aucune idée de l'état initial des choses. Et il faut vous dire que, surtout la voûte, elle était noire. Noire. Il n'y avait plus ces vols d'oiseaux qui ont l'air de vous plaire, la sagesse qui vous aiderait bien, et la longévité, pourquoi pas. Eh bien, on ne voyait rien. Les poutis, rien. Le macaron au plafond qui montre qu'il y a eu un lustre, rien. Pourquoi ? Parce que vous aviez une cheminée qui est toujours là, cheminée 18e en noyer, et les émanations de cheminée ont fait que cette voûte était pleine de suie, elle était noire. Comment ont fait les restaurateurs ? Ils avaient des échafaudages, vous l'imaginez, et ils ont travaillé pendant 8 mois perchés sur leurs échafaudages en enlevant la suie avec un scalpel, un couteau. Ça a été enlevé millimètre par millimètre et est ressorti. Vous ne le croirez pas, on ne peut pas le croire. Cette voûte magnifique, blanche, crème. La suie crème. Vous avez raison, j'exagère. Et c'est encore mieux. Mais finalement, la saleté qui était là, la suie, avait protégé. Les restaurateurs ne sont pas d'accord quand je dis ça, mais je trouve que ça avait protégé le décor quand même. Et c'est pas si mal.
Parce qu'ils n'ont pas eu besoin de reprendre non. les traits. Rien n'a été touché.
Ah non, rien n'a été touché. C'était leur principe. Et leur,
ce qui fait quand même, des fois, c'est un petit peu flou. On voit ce personnage-là, on voit vers le bas.
Comme vous êtes intelligent, vous pouvez regarder ça et ça vous suggère, c'est le même.
Oui, puis on peut se satisfaire d'approximation en sachant que c'est un objet. C'est quand même une peinture qui a 250 ans.
Voilà. Mais vous voyez, la restauration des portes a été beaucoup plus compliquée parce qu'il n'y a pas de sous-couche. Donc on est presque à même le sapin. C'est assez rustre et rustique comme peinture. Et comment ont procédé les restaurateurs? Là, vous ne le croirez pas, mais il n'est pas extraordinaire, ce musicien. D'ailleurs, il est occidental alors que l'autre est chinois. Eh bien, ce personnage n'existait plus. Comment on fait revenir un personnage à la surface? Les restaurateurs ont appliqué des compresses humides, Bolloré, papier Bolloré, à plusieurs reprises. Et ils l'enlevaient au bout de quelques secondes, quelques minutes, et toutes les impuretés apparaissaient en filigrane dans ce papier. Mais il ne fallait pas faire ça quand même trop, parce que sinon, c'est le personnage qui vous ressortait dans la main. Et nous n'aurions pas été contents, eux non plus. Donc voilà comment s'est fait la restauration.
Je vois quand même, quand on regarde ces portes, qu'il y a un certain nombre de petits verres qui ont percé les
peintures. Oui, mais vous voyez, ça c'est très bien, parce que ça n'a pas été traité encore, parce que c'était très très cher. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a 8 ans, on ne savait pas exactement quel procédé employer, et certains disaient, il faudrait faire des piqûres, vous rendez compte, une piqûre après, il faudrait quelques moines, c'était pas possible.
Donc les verres sont toujours dans les portes?
Je le regrette, mais ils sont toujours là, présents, mais moins présents qu'avant. Mais de toutes les façons, notre chance et dans notre malheur, c'est que nous sommes face à une nouvelle obligation de restauration de la partie basse. L'endroit s'est trouvé devoir être fermé pendant 2 ans, et très mauvais, parce qu'un endroit comme ça doit être ventilé. Il ne l'a pas été. Le résultat, c'est que nous avons eu là des remontées par capillarité qui atteignent maintenant presque la fresque, presque plus d'un mètre, ou presque un mètre. Et nous repartons vers une restauration de tout ce qui est la partie basse de ce décor. Et les conservateurs de la DRAC disent que ce serait dommage de ne pas s'attaquer aux xylophages qui ont attaqué le décor. Donc ça va être une bataille contre les xylophages, peut-être, mais c'est une bataille d'argent, parce que...
Et peut-être trouver une solution pour éviter que cette humidité remonte aussi.
Voilà. Mais alors, la solution, elle n'est pas simple, hein, parce que là, il y a eu un ragréage qui a été fait parce que la DRAC le voulait. Et on va devoir enlever ce ragréage. On tombe sur une autre chape, qui est une chape ancienne, mais qui, elle aussi, peut-être, faisait passer l'humidité. Il va falloir sans doute l'enlever. Alors, si la première s'enlève, d'après tous les maçons agréés, monuments historiques, si ça s'en va comme une crêpe, la seconde couche, je ne pense pas du tout que ça s'en ira si facilement. Et il faudra faire un joint, comme on dit, un joint de dilatation. Il va falloir couper la fresque au ras comme ça, de façon à ce que ça puisse respirer et mettre peut-être des petits cailloux, des petits... Vous voyez, nous sommes face à une deuxième restauration qui nécessite que nous cherchions et que nous trouvions de nouveaux fonds. Moins importants que les premiers, heureusement, parce que sinon ce serait désespérant. Hein.
Alors, Madame Adhémar, vous dites-nous, qui êtes-vous pour...
Je ne suis rien et...
Alors, une association peut-être,
éventuellement. Voilà, parce qu'il n'y a que les associations qui peuvent... œuvrer pour des choses pareilles. Donc c'est une association qui s'appelle les Amis de Fargeon, qui a pris en charge donc toute cette affaire dès le début. Mais je dois dire qu'elle l'a pris en charge grâce à un prêtre qui était là fraîchement nommé et qui était un peu anticonformiste, comme le sont souvent les gens de cette région, et qui, lorsqu'il a vu ce décor, qui était en fait un petit débarras qui lui appartenait, mais où il n'entrait jamais, qui était encombré d'armoires, de placards, c'est ça qui a abîmé tout le décor, les armoires, les placards, rien ne pouvait plus respirer. Lui, il a dit « ça m'intéresse ». Moi, je lui ai dit « ça nous intéresse ». Il a dit « ça m'intéresse aussi ». Donc, on est allé voir l'évêque, parce que quand même c'était lui, et nous lui avons dit « pourquoi ne ferait-on pas ça ? Nous pouvons peut-être trouver des fonds, nous nous engageons pour les deux tiers ». Mais s'il faut payer un tiers, il n'a pas eu besoin de trouver de financement, et nous en sommes très heureux. Nous avons pu refaire ce décor grâce à des fondations épatantes. Enfin, bien sûr, il y a eu la mairie qui a aidé la communauté de communes, les fonds Leader Plus, il y a eu la fondation Crédit Agricole qui a été très généreuse, il y a eu d'autres fondations, nous avons eu des prix du patrimoine rhône-alpin, prix de la Gazette de l'Hôtel Drouot, prix des vieilles maisons françaises. Tout ça, ça a fait, même si chacun donnait un peu, ça fait pas mal, mais nous avons eu un prix qui nous a beaucoup honoré au plan européen. C'est le prix de la fondation Europa Nostra, qui œuvre au niveau des 28, maintenant des 28, à l'époque des 15 pays de l'Union européenne. Et donc ils sont venus de La Haye pour voir ce que c'était, pour réfléchir, et ils nous ont accordé leur estime. Et nous en sommes très très fiers, parce qu'être reconnu au niveau de l'Europe, on ne s'y attendait pas.
Parce qu'on peut quand même dire, peut-être en guise de conclusion, oui, Madame Adhémar, que ce petit salon chinois est quand même véritablement un joyau de dit, peut-être.
Absolument, et surtout une rareté, parce que ça n'existe plus. Il y en avait, comme ça, semble-t-il, pas mal, et il y en a encore un petit peu, à Aix, à Avignon, et même dans d'autres villes de France. Mais ils ont disparu, parce que quand ça appartient à un privé, surtout, et finalement ils appartenaient à des privés, les hôtels particuliers, c'est abîmé. Ben, les gens, ils n'ont pas 50 000 euros à mettre là-dedans pour le restaurer, donc ils le repeignent, et c'est fini, on n'en parle plus. Donc vous voyez, tous ont disparu. Celui-là, comme il était inutile, il ne servait à personne, il a été conservé. Et moi, en guise de conclusion, je peux dire que je suis très contente parce que les habitants de cette ville se sont réappropriés ce lieu. C'est un lieu qu'ils connaissaient parce que c'était à côté, il y avait une ancienne salle de catéchisme, un ancien cinéma. Donc ils allaient là, mais ils n'ont jamais compris ni vu comme tellement c'était encombré et puis noir. Ils n'ont jamais compris ce que c'était. Maintenant, ils se sont réappropriés ce lieu et ils viennent nombreux avec leurs familles, leurs enfants, leurs copains, les jeunes, les vieux, les babacoules et les autres, et les bobos, tout le monde vient et tout le monde est très content.
Donc comment fait-on ? On vient ici le samedi,
oui,
à
14h30.
À 14h30, et là il y a une file d'attente.
Non, on téléphone à l'office de tourisme qui vous met dans son planning pour le samedi après-midi et puis on essaie de faire les choses un peu à l'avance. Et puis on vient, on peut même visiter la mosaïque, un endroit extraordinaire aussi, enfin ce vieux quartier le plus intéressant de Die. Donc les gens viennent, on a réussi à négocier de mars-avril, enfin de Pâques, au début du mois d'octobre. Parce qu'il faut bien dire qu'en plein hiver, mais si les gens veulent, ils téléphonent à l'office de tourisme. Il y a toujours quelqu'un pour les gens qui le veulent vraiment, qui en ont besoin pour leur recherche. Il ne faut pas oublier qu'il y a des étudiants qui ont fait quand même des mémoires de master maintenant sur le salon chinois. Je les ai encouragés. J'ai trouvé que c'était une bonne chose. Et puis nous avons maintenant un site qui est le salon chinois de Die. free.fr. Il va être entièrement refait parce que comme on trouve sans arrêt des choses nouvelles, là c'était une ébauche, mais maintenant je vais reprendre les choses un peu cet hiver de façon un peu plus scientifique.
C'est toujours cette fameuse association des amis de Farjon qui est très active pour trouver des documentations, la nouveauté concernant ce petit salon.
Voilà.
Eh bien, Madame Adhémar, je n'ai plus qu'à vous remercier pour vos connaissances étendues, presque encyclopédiques sur ce lieu.
Oui, ennuyeuse.
Pas mais plus
vous savez,
que
je
ça.
Je suis un vieux professeur d'université.
Non. Ne vous dévalorisez pas à la présence de nos auditeurs. C'était passionnant. Et puis, donc, on ne peut qu'encourager les Diois et autres touristes de venir tous les samedis à 14h30 prendre rendez-vous d'abord avec l'Office du Tourisme pour visiter cette rareté et cette curiosité locale.
Un grand merci. C'est moi qui suis contente parce que grâce à vous, cela fera rayonner ce salon chinois qui en a bien besoin.
Madame Adhémar, merci. À bientôt. Au revoir.
Et au revoir.
Déambulation.